Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Eh bien voilà, nous ne sommes pas aidés par la voirie. Bon, oui, je regardez l'heure, 20h15.
On n'a même pas le temps de faire la présentation,
excusez-moi. On peut dire qui c'est qui est là, si vous voulez.
Ben non, mais j'ai deux choses à faire, moi, c'est de dire Jean-Luc Rousseau.
Mais au revoir, on sait, vous nous le dites.
Non, on n'a pas le temps, là.
Ah ben, on n'a pas le temps. C'est parti, donc...
Bonjour Jean-Loup.
Voilà, bonjour Roger.
Bonjour Tom.
Hey, bonjour les gars.
Et on n'a pas le temps, vous savez pourquoi on n'a pas le temps? Parce que parking Colombier, non, le parking en dessous est plein, parce que l'autre parking est bouché, parce qu'il y a des travaux, et Pépère, on s'est garé rue Nantes, d'où le retard. Voilà.
Plus de voiture au centre-ville de Rennes, c'est clair.
Ça va être pratique. Tiens, alors on va parler tout de suite des choses qui énervent. Alors, le vélo, c'est quand même un sport qui est rude. Le Paris-Roubaix, c'est la quintessence du rude. C'est-à-dire qu'ils ont quand même des meilleurs vélos, maintenant, vous avez vu, ils ont pu Le vieux vélo Mercier qu'ils avaient du temps de Poulidor.
C'est 30, 40, 50 000 euros le vélo, facile.
Ouais, vous avez vu les vélos avec des roues plus épaisses et tout, parce que Paris-Roubaix, c'est l'enfer. Eh ben, c'est pas suffisamment l'enfer, parce que Mathieu Van Der Poel, alors c'est vrai qu'il a un nom à coucher dehors, moi ce que je retiens surtout, c'est que c'est le petit-fils de Pompidou, presque.
Raymond
Poulidor. C'est un killer, c'est la deuxième fois qu'il vient de remporter le Paris-Roubaix, c'est extrêmement rare, voire ça s'est du jamais vu. C'est pour vous dire, c'est pas assez dur, bon Jean-Loup, c'est pas assez dur parce qu'une spectatrice a essayé de stopper l'envolée de Mathieu Van Der Poel en lui jetant une casquette. Elle s'est justifiée en disant « Oui, mais c'est parce que je l'aime bien et tout, puis je voulais le soutenir. » L'autre, il a juste vu une casquette qui a failli rentrer dans ses rayons et le foutre en l'air. Et plus loin, il a reçu de la bière sur la gueule parce qu'effectivement, il s'avère que Mathieu Van Der Poel, qu'il m'excuse de massacrer son nom, il a qu'à s'appeler Poulidor.
On aurait dit qu'il y avait du piston.
C'est quand même un peu... Je crois que là, on touche le fond. Non seulement ces gens-là ne sont pas obligés d'aller voir la course, mais en plus de ça, jeter de la bière, jeter des trucs à la gueule d'un coureur qui en chie grave sur un pavé gluo, et puis au risque de, parce qu'ils roulent à des vitesses de plus en plus folles.
Ah, oui.
Et là, maintenant, ils sont casqués, etc. Avant, c'était la casquette Ricard. Maintenant, c'est fini. Hein.
Petite question. Vous savez quels sont les trois sports les plus vus mondialement, enfin, pas, épreuves sportives?
C'est le Tour de France.
Non, pas le premier. Le premier, c'est évidemment...
Coupe du Monde.
Non.
Le foot.
Les JO.
Les JO.
Ah, les JO.
Le deuxième, c'est Coupe du Monde de foot. Et le troisième, c'est le Tour de France. Ouais. C'est surprenant, en fait.
Mais il y a le Tour de France et il y a le Paris-Roubaix. Le Paris-Roubaix. J'étais facteur. J'ai pédalé dans la côte. Mais alors, sur du pavé gluo, avec en plus des crétins, des demeurés, qui vous jettent des trucs à la gueule, c'est à désespérer de l'espèce humaine.
Excusez-moi, Roger, on pourrait mettre un disque et peut-être faire la présentation de l'émission. Je vous sens gonflé à
moi. Mais c'est parce que vous savez pourquoi. On a parlé du cyclisme tout à l'heure avec Jean-Loup. Et cette attitude-là m'a Je sais pas. Pourtant, ouais. Je déteste regarder des courses de vélo mais à la télé.
Vous l'aurez, votre rubrique, Roger, n'ayez pas peur. C'est prévu dans le timing. Alors, on se met un petit 10 et puis j'aimerais bien aussi qu'on présente
notre
dans l'émission. Oui, quand même, ça se fait.
On présentait ça, effectivement. Vous avez entièrement. Gets the same train every time, 'cause his world is built on punctuality. It never fails. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. While his father pulls a maid, and she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, because he's better than the rest, and his own sweat smells the best, and he hopes to grab his father's root when fate passes on. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservative. And he goes to the regatta. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. Après cet excellent morceau de la programmation à Roger.
Ça, j'ai réussi à le calmer, cher auditeur. Ça n'a pas été facile. Donc, vous écoutez bien les Grignoux comme tous les mercredis de 20h à 21h30, à part les 15 derniers jours. C'était pas de ma faute, c'était pas la faute à Roger.
C'est vrai, c'était la mienne.
Vous n'êtes pas obligé de le dire devant tout le monde, quand même.
Il y a des gens, il y a la famille, c'est sacré. Ah, il faut aussi. Voilà. Faut qu'on respecte des choses, mon bon Jean-Luc.
Je sais parfaitement bien. Bref, nous accueillons ce soir, hein, monsieur Lacroix. Alors, si je vous parle de l'AGMFO, vous voyez évidemment de quoi je veux parler, Roger.
Bien sûr, vous parlez de l'Association de Gemmologie.
Exact.
De minéralogie et fossiles de l'Ouest.
Exactement. Voilà. Et nous accueillons tout à l'heure monsieur Lacroix. En fait, il va nous parler un peu plus, parce que c'est vrai, quand on discutait entre nous, un gemme, qu'est-ce que c'est? Bah oui, on voit ce que
on
c'est.
On dit une gemme d'ailleurs, je crois.
Pardon?
On dit une gemme.
Ou une gemme. Alors on en saura un peu plus avec monsieur Lacroix. Et finalement, on s'aperçoit rapidement qu'on a les idées un petit peu coincées par rapport à ça. Et si vous voulez en savoir
plus... Vous avez des idées. Moi, je ramasse du fossile.
Ah oui, mais là, attendez, je ne suis pas arrivé au fond. Parce que qu'est-ce que c'est que du fossile, hein, précisément? Alors, si vous répondez à la question, moi, je vous vire. Hein, sinon, ce n'est pas le coup d'inviter monsieur Lacroix.
J'ai rien dit. Vous avez vu, vous m'avez posé la question. Est-ce que je vous ai répondu?
Exactement, non, parce que je vous ai prévenu. Bref, vous en saurez un petit peu plus au cours de l'émission. Et moi, personnellement, ça m'intéresse ce genre de choses, parce que ça m'intéresse, je ne sais pas pourquoi, l'amour des cailloux.
Et vous savez pourquoi? Parce que quand je serai en retraite, je vais vous faire sortir, on va aller ramasser des cailloux. Monsieur Lacroix va nous dire où est-ce qu'on peut ramasser des chouettes cailloux et des fossiles dans
Ça s'appelle le bagne. Non, il ne faisait pas ça longtemps.
Voilà. ça vous intéresse.
Les casser en petits
mais
morceaux.
Non, il vous faut un petit piolet. Monsieur Lacroix nous dira ce qu'il faut comme matos. Et puis par contre, on n'a pas le droit de fouilloter partout, on en saura plus, on peut pas débarquer chez les gens et commencer à péter la falaise.
Ah bon? Moi, je croyais
que vous allez voir
que c'était possible.
C'est à mon avis, c'est pas très possible. En tout cas, j'ai hâte qu'on puisse en parler plus en avant. Et vite, vite, à notre Dix à programmation, voilà. À Jean-Loup cette exact. Fois-ci, parce qu'il est déjà 20h23. Ouais. Seigneur Jésus, vous merci inquiétez. La mairie.
Votre rubrique arrive, ne vous inquiétez pas.
That we go when we travel around the world, don't need a thing. Let me tell you about the people that we know. Hold us down no matter what, through thick and thin. It doesn't matter what continent or time zone, we stay connected every day, get our grind on. And we don't care what you're gonna label this song. Me and Boogie Monster wildin' out right now, so come on. What? See, most people only dream about the life we live. We sacrifice it all, no picket fence to hold us in. No clocking in or punching out, yeah, that's what freedom is. If you want a taste of this, go ahead and pump your fist. You probably got into the lie that money's everything. That money never measures up, they got you suffering. Stuck in the job, you hate a 9 to 5, you can't escape. If you wanna make a change, do it now, don't wait. Is that easy? You've been a slave to your mind, hush that voice inside, cause it's that easy. Make free, be the person that you wanted to be. I said it's so easy. Just get out of your way, have fun, just play, cause it's that easy. Do it for yourself, you'll see everything else was just a waste. Let me tell you about the places that we go when we travel around the world, don't need a thing. Let me tell you about the people that we know. Hold us down no matter what, through thick and thin. It doesn't matter what continent or time zone, we stay connected every day, get our grind on. And we don't care what you're gonna label this song. Me and Boogie Monster wildin' out right now, so come on. What?
Yeah, back for the second round. No time for play around. Raw's how I like my sound. Burning up the venue from the ceiling to the ground. Got you hooked up by the bass bound. Holler if you're down. Matter of fact, just gather the hood and the whole connection. Tell them we back and we gotta hook them on the mission. You're on to something major here. This ain't the wrong impression. Open your mind and your ears, cause this here is straight into fiction. Shh. Keep it on the low with me, go. We officially launching Operation Hook Eagle. And if for any reason you be snitching to your people, we will be back to slice you into pieces like a bagel. Words and verbs, speaking in for days, man. Hitting your nerves with tricks from the basement. Sicker than flu, is spreading to you. And if you still don't know how we do, then let me tell you.
Let me tell you about the places that we go when we travel around the world, don't need a thing. Let me tell you about the people that we know. Hold us down no matter what, through thick and thin. It doesn't matter what continent or time zone, we stay connected every day, get our grind on. And we don't care what you're gonna label this song. Me and Boogie Monster wildin' out right now, so come on, yeah.
Ooh, go with us, show your love. Hands up, won't you turn this up?
Come on.
Ooh, can you whip down the strip? Scream it out loud with a shit. Ooh, day and night, long or right, put your lights up one time.
Aight.
Show them how you get down to Boogie into Maui sound.
Let's come uptown, down to the raw. We're rocking them fresh rhymes and jocking them best lines from back in the days when everybody was raw. We be that unique freak phenomenon. Feels sweet like Cinnabons. Wait, you wanna mess with me? I rob you. Way too many people, Jim, we ain't even close to. Opposed to any rules, we're killing them. Maybe fools should deal with it. Many choose to chill, and it's very rude that we're bragging like raw.
C'est la rubrique à qui? Bon Dieu, c'est la rubrique à qui? C'est la rubrique à qui, bon Dieu? C'est la rubrique à qui, bon Dieu de bordel?
Ah, oh, mais c'est la rubrique à Roger!
Et ben voilà, mais non, mais j'étais énervé, parce que pour une fois, c'est des nouvelles sportives qui m'ont énervé. Est-ce que vous avez fait le marathon de Paris, mon
Ah bon non, j'y étais pas.
Et je sais pourquoi vous n'y allez plus.
Pourquoi?
Parce qu'il n'y a plus de cadeaux aux vétérans.
Ah ouais. Vous savez pourquoi? Ils donnent qu'aux petits?
Non. Parce qu'ils trichent. Les vieux, ils trichent. Ils prennent le métro, ils prennent l'Uber, ils se font trimballer en trottinette, ils trichent. Il y a eu plein de triches, tellement de triches que ça les a dégoûtés au comité central de l'organisation du Marathon de Paris, fait que désormais, quel que soit votre score, parce que vous êtes bien en vétéran, vous, maintenant.
Ah, bien sûr.
Et voilà.
C'est 10 ans.
Eh bien, quel que soit votre score, vous n'aurez même pas un porte-clés avec la tête d'Anne Hidalgo.
Putain, c'est dégueulasse.
Mais c'est de votre faute. Vous n'avez pas arrêté de tricher. Alors, est-ce que vous, vous-même, vous avez déjà triché pendant le Super Mi?
Ben non, ça n'a pas de sens.
Ben, est-ce que vous connaissez? Parce qu'il paraît que dans les marathons officiels, ça se fait plus. Mais il y a eu des histoires, en fait, où les mecs, comme vous dites, ils prenaient un raccourci. Et que vous avez 4, 5, 6 000 personnes. Bon, on les retrouvait le numéro 1412 parmi tous les numéros qui restent. Quoi. Mais apparemment, non, c'est surveillé. Ils ont des beepers, des trucs comme ça, où ils sont obligés de passer par des... Là, je parle à un niveau... haut de gamme. C'est vous le sport.
Alors on vous demande, est-ce que vous connaissez des tricheurs? On vous demande pas de donner des noms.
Non, je n'en connais pas. Bah non, parce que, enfin, ou alors ça triche, mais franchement.
Ils sont tombés dans le ravin, c'est ça. Là.
Ouais, mais ça, enfin, moi je comprends même pas. À part arriver le lundi matin en disant, ouais, regarde le temps que j'ai fait. Je vois pas du tout l'intérêt. Et on perd complètement le côté sportif, quoi.
Et vous arrivez le lundi matin au boulot, ouais, le temps que j'ai fait ce...
Non. Bah, quelque part, il y a un peu de ça, oui, quand même.
Bah oui, vous l'avez fait.
Oui, parce qu'on est content de ce qu'on fait, quand même.
Roger.
Même si vous pouvez pas comprendre.
Sport toujours, tiens. Non, rien à voir avec le sport. Rien à voir avec le sport. Si ce n'est une espèce de constance dans notre pays, une constance qui transcende les partis de gauche et les partis de droite, c'est la façon dont nous récompensons les malheureux qui ont fait le mauvais choix de travailler pour la France. J'en veux pour exemple les harkis. La France vient d'être condamnée pour les mauvaises conditions de vie dans les camps d'accueil. La Cour européenne des droits de l'homme, on est quand même en 2024.
On peut peut-être rappeler ce que c'est que les harkis.
Les harkis, ce sont les supplétifs de l'armée française en Algérie, des populations locales qui ont fait le
c'est
mauvais choix.
De vouloir rester français.
Voilà, et donc du coup, bah, c'est des collabos. Vous imaginez bien ce qui a pu leur arriver quand les Français sont partis. Et ça a été une véritable catastrophe. On les a désarmés, abandonnés.
On les a massacrés.
Non, mais c'est pas la France qui les a massacrés.
Non, c'est les Algériens.
Non, mais la France, en ne les accueillant pas, en les désarmant, on les a laissés pieds et mains liés au FLN et on a trouvé des tas de fausses communes. Et pour ceux qui ont réussi à venir en France, ben, les conditions d'accueil ont été loin d'être exemplaires, puisque ça ressemblait quand même un peu plus à des camps de rétention qu'autre chose. Il y en avait pas mal dans le sud-ouest, où il faut savoir qu'il y avait aussi, à l'intérieur des camps, les autorités s'étaient débrouillées pour organiser des écoles. Il y avait des écoles au centre, pas question que les
harkis
se mélangent avec le reste de la population. Et par l'ironie la plus noire, il faut savoir quand même que les collabos français, eux, qui avaient travaillé dans les supplétifs de l'armée allemande, jusqu'au sein de ces dernières années, parce que ça a fait scandale, touchait une retraite d'anciens combattants du commandement des autorités allemandes. Voyez un peu la différence. Quand vous êtes collabo, choisissez bien votre camp. L'allemand sait récompenser ses collaborateurs. Quand le français, puis, c'est de la merde.
Et les harkis, juste un petit mot. Il y avait sûrement qui était pour l'Algérie française. Je simplifie, mais c'était une population locale. Hein, c'est pas ce qu'on appelait les pieds noirs, qui étaient les blancs. En fait,
ah non, les pieds noirs, ça c'est les colons.
Je termine. Et quand ils ont été chassés d'Algérie de manière assez violente et brutale, ils sont arrivés sur la terre promise à métropole, où ils ont été considérés comme des Algériens, mais avec tout le racisme qui pouvait dans les années 60 et même 70. Qui pouvait imprégner la société française, quoi. Et ils se sont fait avoir, les pauvres. Et je sais plus ce que ça veut dire, le terme harkis, mais pas
fait.
C'est pas les lâches, les traites. Mais il va nous trouver ça, Tom.
Je pense pas, parce que c'était le nom officiel, mais comment? Enfin, j'en sais rien.
Je sais
en
pas.
En tout cas, voilà. On est en 2024. Ils sont arrivés chez nous avec l'indépendance de l'Algérie en 62.
Ouais, c'est
et ben, une bonne, après 58 ans. Bravo. On admire la célérité de la justice.
Bon, je vous parle pas de l'Algérie d'aujourd'hui.
Alors, par contre, il y en a qui sont beaucoup plus rapides. Est-ce que vous connaissez le ministère qui voit un texte de modification des règlements tous les 15 jours en moyenne depuis ces 30 dernières années?
Le ministère de la réglementation
l'éducation nationale. Si. L'éducation nationale est enfermée dans une spirale infinie de réformes. Réformée mal et réformée vite. En fait, depuis ces 30 dernières années, on assiste à un véritable concours l'épine des réformes à la con, qu'elles soient de gauche ou de droite, toujours qui vont du haut vers le bas, jamais de concertation. On ne fait jamais le bilan d'une réforme, savoir ce que cette réforme-là a pu avoir de bien ou de mal. Et à la limite, s'il y a eu des trucs de bien, on garde les trucs de bien, on supprime les trucs de mal. Nope, à chaque fois, on revient à zéro. Il faut savoir que quand même, plus de 80% du code de l'éducation a été modifié entre l'entrée dans le système éducatif et la fin du secondaire d'un bachelier 2023. C'est-à-dire qu'un gamin qui est rentré en 2020, qui est rentré, qui va passer son bac en 2023, comment 80% du code d'éducation avait été transformé pendant son passage, je vais vous dire. Comment souligne Julien Gossa, maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Dans le détail, 125 lois, une loi organique, 37 ordonnances, 6 décisions et 595 décrets auront conduit durant ce laps de temps à 169 versions de la partie législative et 482 de la partie réglementaire selon des comptes effectués par ce spécialiste de transformation de l'action publique de l'enseignement.
Je suis tellement dormi, Roger.
Soit un texte donc de modification des règlements tous les 15 jours. Et on s'étonne après que ça ne marche pas. Comment voulez-vous que ça marche si effectivement, toutes les 5 minutes, on rechange, on ne tient absolument pas compte de ce qui a été fait avant, de ce qui pourrait marcher. Bref, c'est pour ça que le gouvernement, en ce moment, en est à nous imposer le choc des savoirs. Mais personne ne veut entendre parler des groupes de niveau, mais c'est pas grave.
Mais
Attal, qui est resté 48 heures au ministère de l'Éducation nationale, a décidé que c'est bien, donc c'est bien.
Moralité, et ça par contre je vais revenir sur des faits, dans ce cas-là, les gamins d'aujourd'hui, ça va à peine lire, écrire et compter.
Eh ben, je sais pas, mais
je suis dans l'ironie en
si on leur
ça.
Avait appris, effectivement, à lire les textes de loi de changement de l'éducation nationale, ils peut-être. Sauraient lire. Ils sauraient lire.
Ce qui est rigolo, c'est que ma grand-mère, à l'époque, la scolarité était à 12 ans, je crois, un truc comme ça. Bref, elle arrêtait son école très tôt et quand elle écrivait, elle ne faisait aucune faute d'orthographe. Ce qui m'impressionnait, alors que moi, j'ai un peu plus de difficultés.
Il y avait peut-être moins de folie législative à l'époque
qu'à
l'école. C'était
plus rude, on va dire, l'enseignement.
Ouais, mais peut-être qu'une fois qu'on avait défini une fois
pour... Ça rentrait bien dans le crâne.
Non, mais une fois qu'on avait défini une fois pour tout ce qu'on voulait apprendre aux gosses, on leur apprenait. Tandis
peut-être
que maintenant,
aussi.
Ça change tous les 5 minutes. Tiens, 20 lingots d'or. 20 lingots d'or, plus de 60 kilos de cannabis,
oui,
1 kilo de cocaïne et 7000 euros saisis.
Quelle
c'est
histoire.
Chez qui?
Chez la mère d'Avalon. La mairesse. Ouais.
La mairesse d'Avalon. J'avais à avoir du mal à justifier une consommation personnelle.
Mais là, si je peux intervenir là-dedans, d'après.
Donc, vous pouvez, parce que vous voulez que je vous dise.
Bah, non, mais
moi, j'étais un peu mort de rire, comme avec l'histoire du maire d'Ac, de là où je sais pas où, là, qui a été envapé par une devineresse. Et ben, celle-ci, elle faisait de, comment dirais-je, bah, plus dans le.
Par contre, pour éclaircir, hein, sur les faits, donc il y avait la fameuse maire.
Mairesse,
d'Avalon. Elle avait deux francs. En fait, qui eux sont absolument pas clairs, ont déjà été condamnés. Mais je termine. Et comment dirais-je, où ils s'étaient englués dans du trafic de drogue, etc. Bref, on l'a retrouvé ça dans un des locales de chez la mairesse, comme vous dites. La grande question, c'est est-ce que la mairesse était absolument consentante
ou pas au courant
ou réellement pas au courant. Là, par contre, alors, le fait que la garde à vue se prolonge, c'est pas bon signe en général.
Bah, en fait, ça va être parole contre parole. Peut-être que je sais pas quels sont les rapports de la mairesse avec les frangins. Les frangins peuvent très bien avoir envie de se sacrifier pour leur frangine. Je sais pas. Et puis on n'est pas juge, mais
on peut
vous voyez, c'est comme c'est pas acte. C'est là où les gens ils se mettent cul nu. Aidez-moi, moi je vais pas me mettre cul nu là-bas. C'est
non,
dans
vous
le sud.
Pas obligé, c'est le Cap d'Agde.
Le
ça
Cap d'Agde, oui, c'est ça. Et c'est le. Et celui-là, lui, il a été envapé par une devine. Mais... Est-ce qu'il lui parlait avec la voix de l'archange Gabriel? L'Arabie Saoudite. Ça, je trouve que c'est la drôlerie de la semaine. L'Arabie Saoudite a été choisie pour présider la commission pour les droits des femmes à l'ONU. Eh ben voilà. Moi, c'est un peu comme si on demandait à Willy Schraen, comment dirais-je, bon chasseur, enfin, bon, j'en sais rien, est-ce qu'il y a des bons, des mauvais chasseurs, j'en sais rien, mais chasseur devant l'éternel, de présider la commission de défense de la diversité. Ça, en fait, c'est un peu ce qui se passe avec Macron, mais ça me paraît être un petit peu hors sujet. Et ça me fait penser que l'ONU, avec ce genre de prise de décision, ça finit par être devenu plus tellement crédible.
Et ça sert à rien. Ça sert à rien. Enfin, ça sert plus à rien, malheureusement.
Il est déjà 36. J'aimerais bien quand même un peu de décence. Il y a Monbruno, on en parlait tout à l'heure avant l'émission de Monbruno, qui commence même à chauffer les oreilles à son président et patron. Hein.
Ouais, mais moi ça m'énerve parce que c'est un peu toujours le même cirque. C'est que on a l'impression qu'il y a que ça fuite comme ça dans le journal, mais c'est pour que Macron il passe pour le mec qui sait tout et puis qu'il a que des bras cassés autour de lui et qu'il peut rien faire quoi.
Alors c'est un peu de sa faute, hein, c'est lui qui les a choisis.
Bien sûr, mais du coup
l'autre, ça fait 7 ans
Bruno,
qu'il est
con,
là.
Bah ouais, mais bon.
Macron lui a quand même dit devant tout le monde, ça fait quand même 7 ans que tu es là, mon Bruno.
Ouais, je sais bien. Donc, je trouve ça que c'est un bon jeu de théâtre.
Et mon Bruno, moi, ce qui m'énerve surtout, c'est quand mon Bruno, il dit oui, il faut que ça, arrêter d'être open, il faut plus que ça soit open bar. Vous savez. Ça me saoule parce que mon Bruno, il paye pas son loyer, il paye pas, comment dirais-je, son chauffeur, il paye pas sa bouffe, il paye pas la vacances, il paye rien, mon Bruno.
Et puis pour
il
nous, c'est pas
rien
gratuit.
Payé. Avant, il était de droite, il était ministre de l'Agriculture sous la droite. On voit bien avec les succès qu'on connaît quand on voit les manifestations des croquants aujourd'hui. Pas vraiment l'impression qu'il peut mener une bonne politique. Bref, il n'a jamais rien branlé de sa vie. Il a toujours profité des mannes de la République. Et quand il vient dire il faut arrêter de, que ça soit open bar, ça me saoule. De la même manière que Yaël Braun-Pivet, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, qui dit il faut réduire en partie les dépenses sociales. Alors il faut quand même rappeler que Yaël Braun-Pivet dispose d'un hôtel de fonction avec jardin à l'Assemblée nationale. Elle ne paye ni sa nourriture, ni son électricité, ni aucun service du quotidien. Elle a plusieurs chauffeurs. Elle est rémunérée près de 15 000 euros par mois, dont la moitié n'est pas imposable. Et en plus, elle possède 5 millions d'actions chez L'Oréal, valorisées maintenant à hauteur de 2,5 millions et une dizaine de milliers d'actions chez Total. Alors quand ces gens-là viennent dire qu'il faut réduire en partie les dépenses sociales, est-ce qu'ils ont un petit peu... Vous savez quoi, Jean-Loup ? J'ai eu le malheur d'avoir fait des études d'histoire. Et ça fait penser un peu à cette assemblée de Vézélise, lorsque le roi, qui s'était rendu compte qu'il n'y avait plus un sou dans les caisses, avait réuni tous les nobles à Vézélise, c'est pas loin de Grenoble, vous voyez, pas loin des Alpes et tout. Et puis, il y avait une grande conférence des nobles, il avait dit, il va falloir que vous payiez. C'était présidé par Necker, banquier suisse. Et comment sont les Suisses?
Les Suisses, ils savent gérer.
Et Necker avait dit, va falloir que vous payiez, parce que si vous ne payez pas, à mon avis, tout ça, ça va mal tourner. Ils n'ont pas voulu payer, ça a mal tourné. Yaël et mon Bruno, faites un peu gaffe à ce que vous dites, parce que déjà, alors après, la colère populaire, elle peut s'exprimer de manière un peu flippante. Là, on voit avec les Européennes, le Front National à 30%, j'entendais encore sur France Inter, je ne sais plus quel député du Front National, qui se targuait d'être le garant du pouvoir d'achat des prolétaires. Ils vont faire hyper gaffe à ça, et ce genre de déclaration, c'est incendiaire, quoi. Et je me demande effectivement si Micron n'est pas entouré de bras cassés, point final.
Peut-être. J'ai l'impression que vous n'avez pas le gouvernement, ni certains
non,
parlementaires.
Mais, si vous non, voulez, vous ça, c'est pas sérieux.
Je sais pas quoi.
C'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous voulez me dire, mon pauvre Jean-Loup? C'est pas vous qui avez un logement de fonction, vous n'avez jamais eu de logement de fonction, vous n'avez jamais eu plusieurs chauffeurs, et pourtant, vous donnez quand même toujours 100 balles au mec qui vous tape toujours 100 balles dans la rue. Voilà.
Non, j'ai arrêté ça, là, par contre.
Vous avez tort.
J'ai qu'une carte bleue. Ils prennent pas la carte bleue, c'est dommage, j'aurais été plus généreux. Quoi, là. Allez, on va s'écouter un petit disque et on va parler peut-être de choses beaucoup plus terre à terre, si je peux m'exprimer ainsi.
Tout à fait.
En recevant monsieur Lacroix qui va nous éclaircir pas mal de choses, on a pas mal. Enfin, moi personnellement, j'ai un paquet de questions naïves, on va dire, à lui poser pour tout savoir sur la gémonologie. Oh, j'ai du mal, c'est pas facile à dire. L'étude des gemmes, on va dire ça pour simplifier. Les minéraux. Et les fossiles dans l'Ouest et en général pour simplifier. Allez, un petit 10, c'est parti.
Cool, 'cause they play it like a fool. Put the spoon down or you get a smack. it is always the same story. The dream of love and glory, become famous and a star. But these dreams meant so far. If you want to walk in the sun and lots of money, having fun, you have to work for your success. Lazy people just get less, so you have to play this game. But just walking in the rain, so you have to play this game. But just walking in the rain. If they beg you, if they pray, you say you will go your way. Even wrong was been in a day. It is said, honesty is the best policy. But you know this is the truth, which rules me and you. So you have to play this game, or just walking in the rain. So you have to play this game, or just walking in the rain.
Dorénavant, toutes les connaissances disponibles sont à votre disposition. En effet, les Grignoux sont spécialistes de tout. Diplômé des arts et des lettres, docteur en sciences particulières et générales, prix Nobel 90 de mathématiques, maître en histoire géo, spécialiste de l'univers, licencié S paranormal, voici les Grignoux dans... Éduquons, éduquons.
Voilà, nous sommes en compagnie de monsieur Pierre Lacroix, alors, qui est président, alors j'aime bien parce que je frime de l'AGMFO. Ah, tout le monde me regarde et puis je fais le malin. Quoi, tu ne connais pas ?
Ouais, c'est ça.
C'est l'association de gémologie, minéralogie et fossiles de l'Ouest. Et j'avais plein de questions naïves, comme je le disais tout à l'heure. Et avant de commencer, j'aimerais savoir qui vous êtes, dans le sens, en fait, c'est quoi votre formation à l'origine ? Comment vous êtes tombé dans le caillou pour simplifier ?
Alors, ma formation... D'ailleurs, merci d'abord pour l'invitation.
Oh, déjà. Merci.
Et ma formation, elle n'est pas du tout paléontologie, minéralogie, elle est pharmacologie.
D'accord.
En fait, j'ai fait 40 ans au moins de recherche en pharmacologie, c'est-à-dire recherche pour la mise au point de médicaments.
Vous travaillez pour un laboratoire.
Voilà, et en relation avec les universités de droite, de gauche, d'un petit peu partout, en France ou à l'étranger. Et puis, chemin faisant, eh bien, j'ai appris à faire de la recherche, du coup.
Ouais, bien sûr.
Voilà.
Là, vous étiez dans les microscopes, enfin, avec des...
Voilà, et même avec les rats et les souris. Hein. Et puis, ça, c'était ma formation parce que quand j'étais gamin, je m'intéressais à peu près à tout, à la nature. Je ramassais des cailloux, je ramassais des plantes, je ramassais des animaux.
Aviez déjà, vous aviez
c'était
ça dans le sang.
C'était mon ADN.
Mmh.
Et puis, quand je suis arrivé à l'université, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Alors, finalement, la médecine, la pharmacie, les médicaments, ça m'intéressait. Quand j'étais gamin, j'inventais des médicaments ou des poisons. Et d'ailleurs, mes poisons fonctionnaient très bien, puisque...
Ça s'appelle le LSD,
après avoir piqué les produits phytosanitaires de mon père, j'en faisais une mixture avec des plantes dont je ne connaissais pas le nom. Et puis, dans cette mixture, je mettais un ver de terre ou un escargot, et le lendemain, je constatais qu'ils étaient morts, ces pauvres bestioles. Alors je disais, ben voilà, j'ai bien inventé un poison. Je sais inventer, et pourquoi pas, un médicament. Et c'est comme ça que, petit à petit, je suis arrivé à la fac pour me poser la question, qu'est-ce que je vais faire ? Médicaments, biologie. Mais il y avait aussi la géologie qui m'intéressait. Et on ne peut pas faire les deux. Alors, j'ai choisi plutôt le versant biologie qui m'a amené vers la pharmacologie.
Ouais.
Donc, formation scientifique, un doctorat d'État, formation médicale, en pharmacie, vétérinaire, un peu industriel également. Et c'est comme ça que j'ai cheminé petit à petit. Mais... dans mon bagage, j'avais encore une sacoche où il y avait la pensée pour les cailloux. Alors j'en faisais plutôt un loisir.
D'accord. Ouais.
Donc c'est comme ça que je suis arrivé à la GMFO, Association Minéralogie, Gémologie, Minéralogie...
De l'Ouest. Maintenant, une question.
De l'Ouest.
Pour moi, voilà. La chimie, c'est le couloir rhodanien. Il y a des boîtes de chimie, de pharmacologie
oui.
En Bretagne ? Dans l'Ouest
Non, il y a eu un centre de recherche où je suis allé, d'ailleurs, à Saint-Grégoire. C'était un petit laboratoire qui s'appelait Sobio à l'époque, ça voulait dire Société Biologique, qui a été racheté par une multinationale qui s'appelait Beecham, spécialiste des antibiotiques. Et le clamoxyl, l'augmentin, ce que vous prenez si vous êtes malade, c'est Beecham. Et ce laboratoire a été racheté par un laboratoire américain. Enfin bon, c'est devenu de plus en plus gros et ça s'est appelé à la fin GSK. Voilà. Donc, et puis, voilà.
Alors, les cailloux. Revenons-en
les
aux cailloux.
Donc, mais j'avais juste une petite question, puisque comme, la géologie, en fait, je vais avoir l'air un petit peu provocateur, etc. Mais moi, dans mon esprit, c'est chiant. Faut dire, quand j'étais en fac, je suis resté bloqué sur la Cuesta de Saint-Mihiel. C'est marrant, je me souviens encore d'une autre, cette putain de Cuesta, qui m'a bloqué des UV pendant quelques temps. Bref. En fait, c'est indispensable, j'ai bien compris, la géologie pour
bien sûr, choses, bien sûr, mais si vous faites de la musique, si vous voulez vraiment faire de la musique, il faut faire du solfège. Et le solfège, ce n'est pas la partie la plus intéressante. Eh bien là, c'est la même chose. pour arriver à faire de la paléontologie, étudier les fossiles, étudier les minéraux, il faut connaître sa géologie, la formation
la
de la
géologie,
Terre,
on pourrait la résumer par l'histoire des, l'histoire des couches terrestres, l'histoire de la formation de la Terre.
Tassement, on ne peut pas mieux dire. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça.
Et
c'est la partie la plus rébarbative.
Voilà, et grâce à ça, par contre, quand on travaille sur des gemmes ou on travaille sur des fossiles, grâce à la géologie, on est capable de dater au moment où ils sont apparus.
Exactement.
Et de trouver aussi... parce que moi, si j'ai bien compris dans cette chaîne, parce qu'on voit toujours le paléontologue, alors, comme s'il bossait tout seul, bah, tiens, je vais faire un trou ici, je vais trouver des dinosaures, je suis dans la caricature. Mais en fait, c'est toute une équipe. Il y a le géologue qui détermine le terrain. Alors, si je vais très loin, si je parle des dinosaures, la Terre ne ressemblait absolument pas à la Terre d'aujourd'hui.
Oui,
complètement
bien
perdu.
Bien sûr.
Pourquoi
il y a eu un Allemand qui s'appelait Wegener, qui a conceptualisé un peu ces choses-là, les mouvements de la Terre, et il a montré qu'il y avait des plaques terrestres qui bougeaient les unes par rapport aux autres. Et qui expliquait les mouvements. Un exemple, la Bretagne, au sud de Rennes, il y a des trilobites, ce sont des fossiles qui ont à peu près, on va dire, 450...
Des vilains scarabées, je dirais.
Voilà, on peut dire ça. 450 millions d'années. Eh bien, à l'époque, les sédiments dans lesquels on les trouve... ne se trouvait pas où on est aujourd'hui. On était plutôt du côté du pôle sud.
Ouais, mais c'est rigolo.
Ils se sont déplacés de manière incroyable.
Et puis on va allègrement vers un peu plus le pôle nord maintenant.
Et c'est vrai qu'on peut trouver des fossiles sur l'Everest, sur le toit de l'Everest, c'est assez hallucinant.
Oui, alors parce que ça bouge, monte, voilà. Mais on pourra aborder ça. Bon, j'ai plein de choses à vous raconter là-dessus.
Juste pour finir, parce que enfin, moi j'ai appris ça, en fait, il y a le géologue, le paléontologue, il y a toute une série, enfin, toute une diversité de personnes ou de spécialisées dans un domaine de plus en plus pointu à l'heure actuelle, qui permettent des choses inimaginables
il
y a même 20 ans ou 30 ans. Quoi.
Ben, c'est la même chose en pharmacologie. Il y a le pharmacologue, mais le pharmacologue, il ne sait pas tout. Donc, il va y avoir celui qui s'intéresse à la cardiologie. Et celui qui s'intéresse à la cardiologie, il peut s'intéresser à la partie... hémodynamique, c'est-à-dire la circulation, mais un autre à la partie électrique.
C'est-à-dire... Ok, et c'est des métiers complètement différents quelque part.
Voilà, alors tout ça c'est bien, plus on est spécialisé, moins on connaît l'ensemble. C'est-à-dire on connaît la feuille, mais on ne connaît pas l'arbre.
Ok,
donc
d'accord.
Il faut les deux. Hein.
D'accord. Bah, écoutez, on va se mettre un petit disque et après on va parler de gemmes, de minéraux, de fossiles pour en voir un peu plus clair parce que c'est vrai que c'est un peu obscur globalement dans ma tête. Allez, c'est parti.
No, I'll do
alors que, effectivement, hors antenne, nous échangeons avec monsieur Pierre Lacroix, dont je rappelle qu'il est toujours président de l'association de gemmologie. Et je laisse passer pour le reste des fossiles de l'Ouest.
Et minéral, oh, juste. C'est vrai que c'est pas facile à dire.
Hein. Non, on va commencer.
C'est fait exprès.
On va commencer par. On a dit le premier terme, c'est quoi ?
Qu'est-ce que c'est qu'un gemme ? Parce que quand j'ai discuté avec Roger, on voyait ce que c'était, mais on ne sait pas trop ce que c'est.
Alors,
en fait.
Pour parler de gemme, il faut parler d'une autre chose avant. Les pierres. Il y a des pierres précieuses et des pierres fines. Hein ? Les pierres précieuses, il y en a quatre, il n'y en a pas plus. Il y a le diamant, l'émeraude, le rubis et le saphir.
D'accord.
Ensuite, il y a les pierres fines. Alors là, il y en a beaucoup. Il y a l'aigmarine, l'améthyste, la citrine, l'amazonite, la calcédoine,
le topaz,
l'agate, topaz,
ouais, j'en ai chez moi,
grenat, lapis, lazuli, nacre, turquoise, tourmaline, enfin bon, il y en a beaucoup. Et avec ces pierres-là, qui s'appellent soit précieuses, soit fines, et jamais semi-précieuses ou semi-fines.
On entend cet herbe-là de semi-précieuses.
Oui,
pourtant.
Et le premier président de la GEMFO, qui était un bijoutier, disait « Je ne veux pas vous entendre parler de pierres semi-précieuses ou semi-fines. » Ça n'existe. Ce n'est pas le terme consacré. Voilà.
Alors, moi, je suis surpris parce que pour moi, quand vous parlez de ce genre de... vous parlez de pierres, et pour moi, c'était un gemme.
Alors,
je vais peut-être vite. Voilà.
Non, pas du tout. C'est justement la transition. Je parlais de pierres précieuses et de pierres fines. Eh bien, ces pierres précieuses ou fines peuvent être taillées, peuvent mises en valeur. Mmh. Donc, une gemme, un minéral. Ou un assemblage de minéraux, par exemple l'améthyste, eh bien, elle n'est pas pure. Et donc, ça peut être aussi une concrétion comme une perle, dont la beauté, l'éclat, la limpidité, la dureté, les couleurs et la rareté.
Oui, c'est ce que j'ai rajouté.
En font des objets qu'on utilise en bijouterie.
Alors.
Une gemme.
Vous avez travaillé beaucoup là-dessus. Moi, l'or, j'ai un peu compris pourquoi, effectivement.
On est dans les minéraux quand on parle d'or.
Ouais, ouais.
Mais j'aimerais bien terminer.
Non, mais attendez, je termine par les gemmes. D'où est venue cette fascination des hommes pour les gemmes comme ça? Le fait qu'on soit mis à les ramasser, à les tailler, à les polir. Comment ça se fait que.
Là.
Parce que c'est un boulot de dingue de les trouver. Elles sont peu, et puis on va s'étriper pour ça. Comment ça se fait qu'on est devenu accro à ça?
Ça dépasse mes compétences, là, c'est plus les historiens ou les archéologues qui pourraient dire, mais il y a une fascination de l'homme vers des choses qui brillent, vers des choses qui ont de belles couleurs.
Et c'est
la fascination vers l'esthétique.
Et c'est vrai que dans les tombes les plus anciennes, on trouve des perles percées, etc. Oui. Donc la ficelle qui reliait les perles a disparu, mais on a déjà les perles qui ont été travaillées, des toutes petites perles, etc.
Et puis il y a les formes aussi. Ça, c'est l'esthétique, hein.
Et je vais vous poser une question complètement idiote. Qu'est-ce qu'on appelle un caillou, en fait,
roche? Alors, un caillou, c'est un terme vernaculaire. Hein, c'est le reste.
C'est ce qui vous intéresse pas.
Pourquoi ça devient dur,
Si vous trouvez un diamant, pas en France, hein, le diamant que vous allez trouver, il n'est pas taillé. Hein, c'est jamais qu'un vulgaire caillou.
Ouais.
C'est-à-dire qui est difforme et il est même pas, on voit pas de cristaux bien formés, mais on sait que
c'est le tailleur qui va
travailler, qui va le mettre en valeur, oui bien sûr. Mmh. Alors le caillou, c'est le reste.
Alors une question après, c'est peut-être très technique, mais comment ça se fabrique un peu toutes ces pierres, les diamants, les
gemme pour simplifier.
Alors
comment ça se fabrique?
Ça se fabrique
une gemme
sous une certaine pression et une certaine température. Il y a des minéraux qui se forment très profondément dans la terre, là où il y a une température relativement élevée et une pression également relativement élevée. Si ces conditions de pression et de température durent suffisamment quand elle dure suffisamment longtemps, eh bien, il y a une cristallisation qui se fait. Par exemple, vous prenez un volcan qui va éjecter de la lave. Si cette lave refroidit rapidement, la température va diminuer rapidement. À ce moment-là, on ne verra pas de cristallisation. Si la température diminue lentement, il peut y avoir une cristallisation et c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver certains minéraux
pas loin des volcans. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui encore, la Terre continue de fabriquer des pierres précieuses quelque
Exactement,
part.
Exactement, bien sûr.
Mais par contre, pour qu'on puisse, nous, y avoir accès, il faut certaines conditions géologiques qu'on ne peut pas connaître parce qu'elles sont sur le long terme, avec des couches qui se déplacent et puis ça
Alors,
emmène.
Bon, voilà, c'est ça. Donc on pourrait peut-être les trouver à 20 kilomètres de profondeur, mais on ne va pas les chercher à 20 kilomètres. Donc c'est les mouvements de la Terre qui font que certaines couches vont remonter à la surface et puis vont pouvoir livrer les minéraux, pierres précieuses ou pierres fines, qu'on pourra ensuite ramasser et exploiter.
Dernière question idiote, c'est qu'on discutait avec Roger en préparant l'émission. On a parlé du quartz. Alors le quartz, c'est une gemme ou c'est... On ne savait pas
quoi. Le quartz peut cristalliser ou peut ne pas cristalliser, selon les conditions de température
et de pression. Expliquez-nous.
Alors, si les conditions ne sont pas réunies, température et pression, eh bien, on aura un quartz non cristallisé, c'est-à-dire un quartz laiteux. Il va être blanc, mais ça ne brille pas, c'est dur, mais ça ne brille pas. Si les conditions sont réunies, il va cristalliser. Il y aura des cristaux de première génération et même de deuxième génération, cristaux qui vont se poser sur d'autres cristaux. Il y aura des cristaux géants même. Il suffit d'aller au Muséum d'Histoire Naturelle au Jardin des Plantes à Paris et vous pouvez trouver des cristaux géants, c'est-à-dire de plusieurs mètres. Hein. Et c'est comme ça que ça va se former ou ne pas se former. Et puis, il y aura aussi les conditions de minéraux, de molécules qui vont être environnantes et qui vont donner parfois une couleur. Par exemple, si on prend un saphir.
Un saphir, c'est
une gemme.
Oui, mais c'est quelle couleur ?
Ah bah ça dépend du saphir, non ? Je sais pas.
Il est rouge, le saphir, non ?
Eh non !
Il est bleu ?
Eh ben oui ! Voilà, mais c'était pas loin. Celui qui est rouge, c'est le rubis.
C'est le rubis.
Alors, tous les deux, ce sont des variétés de corindon. Mais il y en a un qui est rouge à cause de ce qu'il y avait autour de lui on l'appelle rubis. Et si il devient bleu, eh ben on va l'appeler saphir. Après il y aura du bleu net et puis du bleu noir, hein.
Mais donc, ça va être la même pierre quelque part.
À peu près.
Okay. Deuxième partie de la question, alors, la minéralogie. Alors, on va me dire, c'est les minéraux évidemment, mais c'est quoi un minéral
pour simplifier avec les gemmes alors.
C'est un assemblage de minéraux qui, enfin c'est une non, c'est pas ça. C'est comment je vais appeler ça ?
Composition.
C'est une composition de molécules, compliquée parce que il va y avoir composition. Donc c'est un assemblage quand même et qui fera que il y aura une couleur, une cristallisation. Et alors ces minéraux vont pouvoir cristalliser dans la forme cubique, dans la forme rhomboédrique. Il y a plusieurs types de cristallisation. Et puis tout ça, ça va donner un minéral qu'on pourra utiliser sous forme de pierre précieuse, sous forme de pierre fine ou sous forme de rien du tout. Voilà.
Alors, je suis un peu...
Bon, si je prends une orthose, c'est un minéral, mais on ne va pas s'amuser à tailler vraiment...
Évidemment, non.
Alors ensuite, il y a une question de dureté. la dureté, il y a une échelle.
Qui est bien pratique, par exemple, pour les... est-ce que je dis des conneries ? Alors, je pense que ça doit être du diamant artificiel, mais par exemple, pour les foreuses, on utilise des... On dit que le diamant, ça permet de forer...
Oui,
c'est vraiment du diamant, mais c'est du diamant artificiel.
Ah ben, maintenant, on peut faire du diamant artificiel, qui finira par être moins cher que le diamant naturel.
Et est-ce qu'on pourrait voir la différence ?
Non, a priori, non.
C'est très difficile.
Ça sera difficile, même pour les banquiers, même pour les joailliers d'Amsterdam.
C'est la question qui se pose actuellement, oui.
Même les spécialistes, apparemment, ont d'énormes difficultés.
J'en parlerai hors antenne du cas de mon fils.
C'est pas donné, en plus.
Parce que mon fiston, lui, il est en cristallographie. Ah. Il a fait des études de cristallographie, une thèse là-dessus, pouf, mais lui, il est dans le ciment, parce que finalement, la cristallographie, le ciment, ça, on reproduit quelque part ce qui se passe dans les volcans, on fait fondre plein de saloperies pour fabriquer du ciment.
Oui.
Et il avait essayé de postuler auprès d'un laboratoire qui fabrique du, pour faire sa thèse, d'un laboratoire qui fabriquait des diamants, et ils lui ont répondu, une gentille lettre, voilà, on est honoré et tout, mais bon, on n'a pas les moyens de s'occuper de vous. C'est pour ça qu'après, il a fini chez Lafarge. Mais ça l'emmerde parce que lui, il aurait préféré être dans le diamant. Et donc, vous dites qu'effectivement...
C'est difficile. Et alors, bien sûr, quand on ne connaît rien du tout, on peut même se faire avoir avec le zircon.
Le zircon, oui.
Le zircon, quand il est bien taillé, il ressemble beaucoup au diamant.
Il y a con aussi dans le zircon.
Ah voilà. Et alors, on avait un prof de chimie qui nous disait, mais vous savez, c'est pas difficile pour reconnaître un zircon d'un diamant. Il disait ça aux filles, qui il leur disait, quand vous allez vous fiancer, on se fiançait à l'époque, eh bien vous aurez une bague avec un diamant ou peut-être un zircon, mais vous aurez un moyen pour savoir si vous êtes fait avoir ou pas, pour savoir si c'est vraiment un diamant ou un zircon. Vous le faites brûler. Si ça brûle, c'était un diamant. Et si ça brûle pas, c'est un zircon.
Il pouvait pas dire donner un coup de marteau, mais c'est vrai qu'on pétait la bague.
Ça serait assez compliqué. Je reviens parce que
dur, mais pourquoi ça brûle ? Excusez-moi, mais pourquoi ça brûle
si c'est du carbone.
Pur.
Enfin, c'est du charbon, en fait.
Oui, mais du charbon très dur.
Ok.
Voilà.
Mais il brûle quand même.
C'est du carbone.
Ah ouais. Et pour en finir sur les minéraux...
Alors parce que le zircon, c'est du zirconium. C'est totalement différent.
Bah évidemment, si vous avez la tête. Et donc, pour conclure, parce que malheureusement, je vois l'heure qui tourne, il faudrait qu'on parle quand même un petit peu de l'association. Donc des minéraux, alors, question complètement idiote, l'or, c'est un minéral.
Ah, on peut dire que c'est un minéral, oui, c'est un...
Attention,
on peut dire un minéral, oui, bien
mais
sûr.
Pourquoi vous doutez, là, le...
Ben parce que, en fait, c'est un atome simple, comme le fer.
Ouais. Me regardez pas comme ça, je vais en faire.
Voilà.
C'est comme le plomb, pareil.
Le plomb.
C'est-à-dire qu'il y a eu une seule unité dans
le plomb, c'est... Est-ce que le plomb, c'est... Alors... Non, vous allez nous dire, il y a la table des éléments, non, là vous allez nous aider.
Par exemple, le cuivre, on peut le trouver à l'état natif.
D'accord.
Comme le fer,
ouais.
Comme le plomb, comme... pas trop le plomb d'ailleurs, on ne le trouve pas vraiment à l'état natif, mais il est sous forme de sel.
Hein. Donc on peut le récupérer.
Alors, le fer, on peut le trouver sous forme de sel, mais l'or, lui, il est pur. Il est pur, lui.
Ah, est-ce qu'il est pur à 100%? Il paraît qu'il y a un petit pourcentage où
alors
il y a des
là,
petits mélanges.
Je ne suis pas assez spécialiste.
Non, mais après, ça, c'est les joailliers qui vont vous mélanger l'affaire avec d'autres trucs, histoire de...
Oui. Les fossiles, parce que l'heure tourne. Qu'est-ce qu'un fossile? Et j'ai une grande question à vous poser, parce que...
Et comment ça se fabrique, surtout?
Comment ça se... Ben, déjà, première chose, on va prendre la mer. Hein, c'est le plus simple, parce que c'est là... qu'on peut retrouver des fossiles assez facilement. Donc, ce sont des êtres vivants qui finissent dans la mer par mourir, qui tombent dans le fond de la mer, qui sont enfouis, ensevelis.
Mmh.
Donc, il y a des conditions qui vont faire que l'animal va être un peu protégé. Donc il ne va pas être détruit parce qu'il y a des prédateurs qui peuvent
le démolir. Ouais.
Bien. Donc l'animal tombe dans le fond de la mer et puis il y a de la vase et il est enfoui, il est enseveli. Et puis, avec le temps, eh bien, ces sédiments vont durcir, vont devenir de plus en plus durs. Et puis, un jour ou l'autre, même, ils vont sortir, il n'y aura plus d'eau. Et c'est dans ces sédiments devenus très durs qu'on va trouver des traces d'êtres vivants.
Mmh. Mais le fossile, c'est une empreinte. Ce n'est pas l'être vivant, c'est une empreinte.
Alors, il y a des fossiles montrent des parties molles.
Alors, moi, j'ai vu ça l'autre jour.
Ça existe.
Comment ça peut... Comment
ça peut... Les conditions
spécifiques, météo...
Il faut que l'animal soit enseveli dans des conditions hors oxygène.
Genre boue, tourbe.
Il ne faut pas que ça pourrisse. Donc c'est vraiment très particulier, c'est très rare.
Mmh. Oui, c'est très rare.
Voilà. Question idiote aussi, parce qu'on va, mettre un petit disque et ce sera bien qu'on parle aussi de la sauce. Je vous aurais parlé pendant des heures. Quand on parle de dinosaures, en fait, qu'est-ce qu'on trouve? Ce sont des os ou des fossiles ou un peu des deux?
Alors ce sont des os, mais qui ont été un peu modifiés quand même. Hein, et voilà, c'est pas l'os... Tel qu'on l'imagine, l'os à l'état...
D'os, simplifier. Voilà. Ouais, ouais.
Non. Il y a eu une épigénisation.
C'est-à-dire
il y a des minéraux qui ont pénétré à l'intérieur, qui ont modifié la composition chimique, quand même, en grande partie, quoi. Pas toujours, mais la plupart du temps.
Bah, qu'est-ce qu'on trouve? Un os ou de la... pierre, pour simplifier, même si...
On appelle ça un os.
D'accord.
Même, oui.
Mais moi, Clampin, je dirais, c'est de la pierre de dinosaure. Enfin, bon, je suis dans la caricature.
Oui, mais on reconnaît.
Okay. On vous dit que c'est un os.
Okay. Un os.
D'accord. Il est têtu. Allez, on s'écoute vite un petit dix, et puis après, on parlera...
un petit peu de l'assaut.
Ouais, de l'assaut, et puis du scandale des vaches noires aussi. Mmh. Parce que, justement, on abordera la réglementation du ramassage des fossiles. Est-ce qu'on peut, on a le droit de ramasser, etc. À droite à gauche, est-ce qu'il y a une réglementation qui encadre tout ça?
Petit dis, c'est parti.
There's a tattooed heart with an arrow through the middle of a name that looks like Joe. Young girl's looking at her makeup in the mirror and puts a little gold ring on her toe. I gotta say 1, 2, 3 more days before I go on. There's a sharp-dressed man playing something on the fiddle in the backyard right next door. And everybody's mother's cooking something in the kitchen. Got dishes stacked, sealing the floor. I gotta say 1, 2, 3 more days before I go on. A little Mexican tune on the chain link fence by the gate. Somebody's daddy's out there honking on the horn. Hurry up, we're gonna make him late. I gotta say 1, 2, 3 more things before I go on. You can't run and try to hide away. Here it comes. It comes another day. Through the middle of this place that I call home. When I get lost, I don't even got a nickel. There's a piece of dirt I call my own. I gotta say 1, 2, 3 more things before I go on. You can't run, you try to hide away. Here it comes.
toujours en compagnie de Monsieur Pierre Lacroix. Alors justement, on va parler un peu de l'association de gémologie, minéralogie et fossiles de l'Ouest. Alors en deux mots, si je suis intéressé par vos dires, si je veux en savoir un petit peu plus, etc., je suis sûr que vous avez un local ou un lieu où on peut en savoir un petit peu plus.
Alors bien sûr, nous avons un local à Villejean, on l'appelle l'atelier. Dans cet atelier, il y a des scies, il y a des percuteurs, il y a d'autres appareils qui nous permettent de préparer les fossiles ou les minéraux.
Vous en coupez en deux comme ça.
On peut les couper en deux, on peut les polir, on peut les dégager.
Wow.
Donc ça, c'est une de nos activités. Ah,
si moi,
on a un autre local qui qu'on appelle la bibliothèque. Et alors, évidemment, dans la bibliothèque, on peut imaginer qu'il y ait des livres, un certain nombre de livres, mais on se rend compte depuis déjà quelques années qu'il y a moins de personnes qui viennent voir ce qu'il y a. Et pourquoi ? La raison, elle est assez simple, c'est que maintenant, on a tous un téléphone, un ordinateur.
Et il n'y en a plus besoin.
Et on a accès très facilement.
À pas mal d'informations. Quoique quand on veut creuser un peu plus.
On est bien d'accord.
On n'a pas accès quand même au fond, quand même.
On n'a pas accès à toute la littérature non plus, hein, bien
sûr. Je m'appelle Jean-Loup. Ah, tout ce que vous m'avez dit, ça m'intéresse. Mais j'y connais absolument rien. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, espèce de stage de formation, de préparation, de. Est-ce qu'on me forme ou est-ce qu'il
Il y a beaucoup de. On a, depuis 1985, hein, donc vous voyez, on n'est pas né d'hier.
Vous êtes carrément fossilisé là maintenant dans les associations.
Complètement, voilà, c'est ça. Mais bon, on survit quand même. Et on a à peu près 120, 130 adhérents par an.
Ah, quand même.
Voilà. Et ça ne bouge pas. Hein.
Alors la bibliothèque, vous nous dites qu'il n'y a plus grand monde qui passe, mais vous n'avez pas dit où c'était.
Ah ben c'est à Villejean aussi.
Pareil, à côté de l'atelier.
À côté, un petit peu plus loin.
Bon,
de toute façon, vous trouverez en tapant sur internet les grignoux sans X, sans S, dans des dieux, tous les lieux où on peut se retrouver. Et j'ai vu aussi, parce que je fais vite, hein, parce qu'il y a Roger qui veut vous parler d'un projet.
Il est 23,
projet.
Allez-y.
Je sais, mais je parle de l'asso.
Ouais, allez-y.
Vous organisez samedi 14 avril, en fait, une bourse au... Alors, c'est quoi ça, en fait? Je peux venir en tant que curieux, je peux échanger, je peux acheter.
Oui, bien sûr. Donc, tous les ans, on fait un salon exposition. Ça se passe au Carré Sévigné à Cesson-Sévigné parce qu'on a trouvé une salle.
Donc samedi 14 avril.
C'est non, là c'est passé maintenant. Hein.
C'est vrai?
Ah oui.
Ah vous savez j'ai un problème avec les
dates. C'est passé. C'était le 2 et 3 mars.
Bah, qu'est-ce qu'il y a le 14?
Qu'est-ce qu'il y a le 14 avril?
Ah j'ai vu ça.
Eh bien il y a une bourse d'échange.
Ah bah c'est ce dont je veux.
C'était pas mal. Alors voilà. Donc nous sommes une association. Il existe une association également à Nantes. Et une autre à Angers. On s'est mis d'accord toutes les trois associations, pour faire chaque année une bourse d'échange. Donc une fois c'est Rennes qui l'organise, la fois d'après c'est l'autre association, et ainsi de suite. Ça tourne. Et là. On n'achète rien, on vend rien,
on peut échanger.
On échange. Ouais.
J'arrive avec mes vieilles ammonites et je peux les échanger.
Oui.
Sauf que le cours de l'ammonite, c'est pas tip top.
Ah non, mais et puis, le cours ne nous intéresse pas.
Alors justement, moi j'aimerais bien savoir quelles sont les réglementations du ramassage des fossiles, parce que moi j'en ramasse, je me pose pas trop de questions, j'en ramasse, pouf pouf, quand je peux en trouver. Est-ce qu'il y a une réglementation? Est-ce que j'ai le droit de ramasser des fossiles comme ça, à droite à gauche?
Pas n'importe comment. D'abord la première chose, c'est que quand on marche sur un terrain, il faut savoir que le terrain, il appartient forcément à un propriétaire. Donc, qu'il soit un propriétaire privé...
Ou civil,
ou
mairie, ou autre.
Voilà. Donc, la première chose, c'est que, normalement, on doit demander l'autorisation de marcher sur le terrain. Deuxièmement, si on a l'autorisation, on devrait demander l'autorisation, non seulement de marcher sur le terrain, mais de ramasser. On peut dire, je veux bien que vous marchiez, mais vous ramassez rien du tout. Ça, c'est le droit du propriétaire.
Voilà.
Donc,
qui s'est encore
déjà,
aggravé d'ailleurs. On peut ramasser 735 euros d'amende si on se promène dans une forêt privée sans l'autorisation.
Oui, oui, c'est ça.
C'est privé. Hein.
Bah, donc, ça, c'est le macronisme en marche, ça.
Donc ça, c'est la première chose à savoir. On ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, en plus, il y a aussi des règles tout simplement de déontologie. C'est pas parce qu'on a trouvé un gisement et qu'on nous a donné une autorisation qu'il faut tout saccager.
Parce que derrière, on peut foutre en l'air le travail de scientifique.
De scientifique. Donc ça, c'est très important. D'où l'intérêt d'associations, parce que les associations sont faites pour aider les gens, leur expliquer, les former. Il y a déjà des questions de sécurité. On ne peut pas se balader n'importe où comme ça. Ça peut être dangereux. On explique qu'il ne faut pas tout saccager. Si on ramasse n'importe comment, de toute façon, on casse tout. Et ça, donc tout est fichu. Donc il y a déjà des règles et puis des conseils qu'une association peut donner. Une association peut obtenir plus facilement
des autorisations de prospection.
Voilà. L'individu le plus problématique, c'est la personne qui fait chambre à part, si on peut dire.
Hein, qui
va
à sa goin,
aller quand elle veut, où elle veut, ramasser ce qu'elle veut. Ça, c'est un peu dangereux. Donc il y a des gens quand même sérieux, mais c'est le plus difficile. Et c'est souvent comme ça que les abus font que,
Que les autres
on
sont
a
punis,
du
quoi.
Mal à obtenir des autorisations.
Voilà, et d'où, alors il nous reste deux petites minutes pour parler un peu de ce qui s'est passé, parce qu'il y a les jeunes, ils parlent de spot maintenant, un coin, alors que vous parleriez d'un site, mais comment c'est dirais-je, qui s'appelle les Vaches Noires. Et je disais à ma chérie, oh ma chérie, je vais t'emmener en week-end aux Vaches Noires, et on va se promener, en plus ma femme adore marcher, donc moi par contre, il faut que j'ai une raison pour marcher, sinon je marche pas.
D'accord,
et
par exemple, ramasser des fossiles.
Voilà, et les Vaches Noires, je disais à Jean-Loup, pouf, voilà que c'est interdit aux grands dames, justement, du centre de recherche de fossiles, parce que les bénévoles, c'est en Normandie, en Haute-Normandie, ouais. Et les bénévoles, comme vous, les amateurs comme vous, jouent un grand rôle, et j'en veux pour preuve, ce couple de retraités qui vient de se voir attribuer le nom d'un fossile de poisson qu'ils ont trouvé aux Vaches Noires, qu'ils n'auraient jamais pu trouver, et qui aurait été détruit par la mer autrement.
Voilà, tout à fait. Alors, il y a en projet, c'est même bien avancé, le projet, c'est d'interdire, donc de créer une réserve naturelle sur la côte normande et notamment
la falaise des Vaches Noires,
c'est-à-dire entre Villers-sur-Mer et Houlgate. Donc, une réserve naturelle qui ferait qu'il serait totalement interdit de ramasser quoi que ce soit. Bon. Donc,
ça a l'air comme à la première vue.
L'idée est bonne parce que il faut aussi savoir protéger
des
choses. Il y a un patrimoine, c'est le patrimoine naturel. Ça se conçoit très bien. On peut aussi concevoir une protection avec des autorisations dédiées à des scientifiques qui vont faire un travail qui aboutira à des résultats qui seront publiés, qui aboutiront également à mettre dans des musées des objets et qui seront donc préservés pour la... Il y a une question de pérennité. Et si on veut que nos enfants apprennent les choses, eh bien, il faut, ça ne sera pas uniquement avec des images sur le smartphone. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, maintenant, le problème, c'est qu'on voudrait interdire également le ramassage sur l'estran. Et là, c'est un problème stupide, parce que de toute façon, les fossiles qui déroulent des falaises et qui vont sur l'estran vont être détruits par la mer.
C'est du calcaire donc, en plus, donc voilà. Ça va être ravagé.
Donc ce sont des marnes. Et donc, en fait, interdire le ramassage sur l'estran, c'est, sans avoir compris, autoriser la destruction des fossiles. C'est aussi bête que ça.
Donc paradoxalement, voilà. Une mesure qui se vaut protectrice aboutit à la destruction de la mémoire.
Voilà. C'est comme ça que je voyais les choses en fait. Oh, on touche à rien pour les touristes, etc. On laisse les chercher.
Et ça vous arrange bien parce que vous aviez peur d'être obligé de mettre des bottes pour aller les chercher.
Je ne connaissais pas la version. De toute façon, une fois qu'ils sont dans l'estran, c'est mort. Quoi. Ils vont s'user, etc. Quoi.
Mais je vous ai dit, ils ne m'écoutent plus, ils ne m'écoutent plus.
Par contre, l'heure, c'est l'heure. On va être obligé de vous dire.
On vous remercie en tout cas, monsieur Lacroix. Et sûrement qu'on vous fera revenir parce que le monde des fossiles, notamment encore plus que des pierres, je dois vous avouer, est totalement fascinant. Et je suis sûr que vous pourriez revenir avec plein de témoignages, même des collègues à vous.
Mais pourquoi pas, ce sera bien volontiers.
Vous pouvez retrouver
l'émission dimanche, diffusion à 15h, je ne dis pas de bêtises, sinon vous tapez les grignoux sans zig, sans cesse, on dit tchou, et là vous tombez sur le blog. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Allez,
à bientôt.
La semaine prochaine.